Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques, Denis Knopfler.
Je n'aurai pas besoin de justifier longuement le choix de mon sujet, puisqu'après avoir traité de la Béotie pendant plusieurs années, de l'Eubée il y a 2 ans, des États fédéraux de Grèce propre et d'Asie mineure l'an dernier, il était bien naturel d'en venir ou d'en revenir à Athènes. Car même à l'époque hellénistique, c'est-à-dire à partir de l'expansion macédonienne, encore sous la domination de Rome, l'histoire athénienne occupe une place centrale, à la fois objectivement et subjectivement. Il est incontestable, en effet, que pendant les 3 siècles environ que dure cette période, tout à fait charnière dans le destin de la Méditerranée antique, Athènes reste malgré tout un des centres de la vie politique, diplomatique, économique, et bien entendu aussi artistique, peut-être surtout philosophique, culturel en un mot. Son destin retient encore et toujours l'attention des anciens, des auteurs, et aussi, de nouveau, celle des modernes. Ceux-ci étant attirés vers Athènes par le nombre, la qualité, la densité, la variété exceptionnelle de la documentation, qu'il s'agisse d'épigraphie, de numismatique et plus généralement d'archéologie. Alors que les sources littéraires sont certes moins abondantes que pour l'époque classique, mais néanmoins bien plus considérables que pour n'importe quelle autre cité antique. À toutes ces bonnes et suffisantes raisons de faire d'Athènes hellénistique un objet d'étude, s'en ajoute un autre, de caractère plus particulier, plus personnel aussi, encore qu'il ne s'agisse pas là seulement d'une affaire de caractère privé, en quelque sorte, car voulant marquer ainsi, le 10e anniversaire de la parution aux belles lettres du livre de Christian Habicht, dans sa traduction française, voici l'original, 1995, et sa traduction française, sortie de presse très exactement en mars 2000, je ne voudrais pas seulement rendre hommage à la personne ou à la mémoire de la personne qui a pris une part prépondérante à la réalisation de ce travail. J'essaye avant tout d'établir le bilan de ce qui a été fait dans cet intervalle, ponctué d'ailleurs à mi-chemin par la publication d'une nouvelle édition, seconde édition française, revue augmentée, imprimée il y a un lustre, en décembre 2005 et portant la date de 2006. C'est l'édition qui fait autorité aujourd'hui, on verra pourquoi, même en dehors de l'espace francophone. Mais elle-même devrait faire déjà l'objet d'une révision sur un certain nombre de points, parfois importants, car on ne cesse de travailler sur Athènes hellénistique, en France, comme à l'étranger, d'abord de plus en plus en Grèce même, où de nouveaux documents viennent au jour très régulièrement, bon an, mal an, au hasard des fouilles, des travaux de construction dans la ville, dans le reste du territoire, en to astei, kai en te kora, ville et territoire. Beaucoup de ces documents nouveaux restent d'ailleurs inédits à ce jour, et certains depuis assez longtemps déjà, mais j'ai bon espoir que le présent cours et séminaire, s'il peut se prolonger dans les années à venir, car la matière est abondante, contribuera tant soit peu à faire émerger quelques-unes des pièces encore enfouies sous le boisseau, retenues prisonnières dans les réserves des musées, et le secret, non pas des alcôves, mais des cabinets savants. Des collègues grecs m'ont promis en effet de venir présenter ici tout ou partie de leur trésor, sinon dès maintenant, du moins dans le courant de la prochaine ou des prochaines années. Il ne faut pas vouloir brusquer un épigraphiste qui a le droit d'hésiter entre 2 restitutions dans une inscription mutilée au plus mauvais endroit ou qui, ayant des doutes existentiels sur la date exacte d'un archonte athénien nouvellement apparu ou subitement mieux documenté, demande encore un sursis d'une année ou 2 avant d'avoir à confesser, le cas échéant, son incertitude. Dans cette première leçon, je vais essayer de montrer quelle a été la genèse et d'abord la préhistoire, en quelque sorte, du livre essentiel de Christian Habicht sur Athènes hellénistique. Cet historien allemand, établi à Princeton depuis 1973, et Dieu soit loué, toujours vivant, incroyablement actif. Un tel ouvrage, on s'en doute, n'est point sorti tout armé, tel Athéna, de la cervelle de son auteur, sans avoir été préparé par une longue série de travaux antérieurs. Il supposait connu, assimilé, une imposante bibliographie, l'histoire athénienne étant, on peut le dire, le champ clos d'incessantes controverses depuis au moins un siècle, parmi les épigraphistes, les numismates et les archéologues. Il impliquait d'autre part des curiosités scientifiques à la fois très vastes et très spécifiques, suffisamment amples d'une part pour embrasser et comprendre toutes les ramifications du sujet à l'échelle méditerranéenne, suffisamment polarisées d'autre part sur cette cité hors norme qu'est Athènes pour exploiter et dominer sous ses aspects les plus divers cette immense documentation, avec les problèmes techniques, linguistiques, chronologiques, institutionnels qu'elle pose à chaque instant. En fait, quand commença à germer, dans la seconde moitié du XXe siècle, le projet d'une nouvelle et indispensable synthèse d'histoire athénienne entre l'époque d'Alexandre, les années 330, et l'époque d'Auguste, 30 avant Jésus-Christ, il n'y avait probablement guère plus de deux ou trois personnes de par le monde qui, par leur formation, l'étendue de leur érudition, leur force de travail aussi, fussent réellement en mesure de réaliser un projet aussi ambitieux. Et je ne suis pas loin de penser que Christian Habicht était à ce moment-là sans doute à peu près seul à pouvoir réaliser une telle chose, parce qu'il bénéficiait également, ce qui ne diminue en rien, évidemment, son mérite, de conditions de travail exceptionnellement favorables dont il sut admirablement profiter. Que la tâche ait été d'une difficulté considérable, propre à faire reculer même d'excellents savants, rien ne le montre mieux que ce constat, à savoir que la seule véritable synthèse tentée auparavant était déjà fort ancienne, puisqu'il s'agit du livre à peu près centenaire de l'Américain William Scott Ferguson, alors Assistant Professor of History, Harvard University. La date que vous voyez sur l'écran, 1974, n'est pas celle de l'édition originelle, 1911, mais celle d'une réimpression qui a eu lieu effectivement à cette date, sans d'ailleurs le moindre changement, ni aucun complément, et ce livre est toujours, je crois, disponible sur le marché. De fait, l'ouvrage de Ferguson fait partie de ces grands livres d'histoire qui, tout en vieillissant irrémédiablement, ne cessent jamais d'être intéressants parce qu'au-delà des dates qui peuvent être inexactes, des hypothèses devenues caduques, des opinions entachées d'anachronismes et d'abord tout simplement de des insuffisances de l'information, ils offrent une matière élaborée selon un découpage bien réfléchi et un plan bien équilibré, une écriture soignée, et surtout bien sûr une vision originale qui doit peut-être autant à la personnalité de l'historien lui-même qu'à toute son époque, celle d'avant 14, dans laquelle il a baigné, à tout ce background de l'auteur, à son milieu national, à son implantation scientifique remarquablement internationale, ce qui n'allait pas du tout de soi. J'ignore, certes, si Ferguson parlait couramment français, allemand, italien et grec moderne, peu importe, mais j'observe qu'il lisait parfaitement les ouvrages dans ces quatre langues, alors que bien des jeunes chercheurs américains, voire britanniques, sont aujourd'hui incapables de sortir de leur prison dorée anglo-saxonne. Ou plutôt, dirais-je de manière plus équitable, on veut nous faire croire dans les milieux de la science officielle, celle qui distribue bourses et subventions, que plus personne ne lit autre chose que l'anglais, ce qui m'a toujours semblé être singulièrement offensant pour nos collègues anglophones, du moins les meilleurs d'entre eux. Ferguson, lui, n'était arrêté dans ses lectures que par le russe, et certes, c'est le cas de nombre d'entre nous encore. Ce qui, en l'espèce, fut peut-être un peu gênant, puisque, comme il le note fort honnêtement d'entrée de jeu, une des monographies fondamentales qu'il avait à disposition pour traiter de son sujet était l'ouvrage de l'historien russe Sergius Alexandrovitch Djebelev, auteur d'une dissertation parue à Saint-Pétersbourg en 1898, intitulée, je traduis car je n'ai pas l'accent de Saint-Pétersbourg, sur l'histoire, petite modeste, athénienne entre 229 et 31 avant Jésus-Christ. On comprendra plus tard la pertinence de ces deux dates prises comme terminus. Pour la période antérieure, celle que l'on appellerait aujourd'hui haute époque hellénistique, Ferguson pouvait s'appuyer très particulièrement sur le remarquable travail de l'historien italien Gaetano De Sanctis, Contributi alla storia ateniese della guerra lamiaca alla guerra cremonidea, publié en 1893 dans un volume composite de studi. Mémoire assez bref, d'une soixantaine de pages, consacré à la période 322-262 avant Jésus-Christ. Autrement dit, chose curieuse, mais non pas inexplicable, il y avait entre les deux phases prises en considération par De Sanctis et Djebelev respectivement, un écart chronologique d'environ 30 ans, soit les années 262-229. Et de fait, il s'agit d'une des périodes particulièrement obscures de l'histoire hellénistique, pas seulement pour Athènes, mais pour tout le monde grec, espèce de trou noir, peut-on dire, résultant notamment du naufrage à peu près complet de l'historiographie antique relative à ce milieu du IIIe siècle. Ferguson était sans doute parmi les mieux placés pour pouvoir combler cette lacune, tant bien que mal, car il venait de produire une étude fondamentale sur la chronologie attique, basée sur les inscriptions, en découvrant une règle présidant au roulement annuel des magistratures, celle des secrétaires en particulier, ce qu'on appelle toujours la loi Ferguson. On y reviendra. C'est dire que l'étude de l'histoire athénienne était alors déjà en pleine effervescence. Relevons d'ailleurs que les trois historiens submentionnés, Djebelev, De Sanctis, Ferguson lui-même, nés tous trois vers 1870, n'avaient guère plus de 30 ans à l'époque de leurs premiers travaux sur Athènes hellénistique. C'était un sujet attrayant, de toute évidence, pour de jeunes esprits indépendants, car il s'agissait d'un champ de recherche très ouvert, profondément renouvelé par la masse des inscriptions découvertes et publiées dès la fin du XIXe siècle. Tous trois également, il faut le noter, ont poursuivi une brillante carrière, bien au-delà de ses travaux de jeunesse. Djebelev, dans le mémoire de 1898, est resté largement ignoré. Il y a un ouvrage extrêmement rare, et pourtant d'une érudition prodigieuse, avec citation de tous les textes littéraires et épigraphiques, vous en avez un spécimen sous les yeux. Ce Djebelev a produit une œuvre considérable dans son pays jusqu'à sa mort en 1941, après s'être converti à l'idéologie soviétique, tandis que son compatriote et d'ailleurs condisciple, Mikhaïl Rostovtsev, beaucoup plus connu en Occident, c'est le célèbre historien du monde hellénistique et romain qui prenait, lui, le chemin de l'exil en Europe et en Amérique. Gaetano De Sanctis, lui, devait déployer pendant un demi-siècle encore une activité exceptionnelle. Il ne disparut en effet qu'en 1957, revenant bien souvent à ses premières amours, l'histoire athénienne, pour croiser le fer, avant comme après 1911, cette date qui marque un tournant, avec Ferguson, en divers mémoires que j'aurai plus tard l'occasion de mentionner. Les articles de Gaetano de Sanctis ont d'ailleurs été réédités, y compris son mémoire de 1893, dans une série de Scritti Minori, qui prouvent leur importance, en 1970. Quant à Ferguson lui-même, qui s'était signalé dès avant 1911 par une douzaine d'articles substantiels, il a commencé à écrire à 20 ans, il resta très actif dans le domaine de l'épigraphie attique jusqu'à sa mort en 1954, produisant encore plusieurs mémoires fondamentaux pour l'établissement de la chronologie, c'était une de ses marottes, publiant en 48 encore un document inédit d'une grande portée historique. De fait, plus que Zebelev peut-être et de Sanctis, malgré la connaissance approfondie que ces deux avaient des inscriptions, Ferguson était réellement un historien épigraphiste. Dans sa synthèse de 1911, on le voit très soucieux de ne négliger aucun document susceptible de contenir des informations utilisables, allant chercher son butin non seulement dans les publications d'épigraphie athéniennes, attiques, mais aussi dans celles qui alors déjà mettaient progressivement à disposition des chercheurs les nouveaux textes de Delphes et de Délos, témoignant de relations étroites avec Athènes, surtout à partir du IIe siècle avant notre ère. Ces notes de bas de page l'attestent assez, comme aussi son remarquable appendice consacré in fine aux sources de l'histoire hellénistique, où est soulignée l'importance croissante de la documentation épigraphique par rapport à la tradition littéraire. Pourtant, comme le notait tout récemment l'épigraphiste américain Ronald Stroud, dans un colloque, organisé à Athènes en l'honneur précisément de Christian Habicht, Ferguson n'a pas travaillé dans les meilleures conditions à cet égard. Son livre, en effet, a été élaboré juste avant que ne commence à paraître, dans l'hiver 1913-1914, la réédition passablement augmentée des Inscriptiones Atticae, celle qui était postérieure à Euclide, Euclide n'étant pas le grand mathématicien, mais un archonte athénien de la fin du 5e siècle. Donc les inscriptions du 4e siècle et de l'époque hellénistique. Travail de l'Allemand Johannes Kirchner, qui allait se prolonger jusqu'à 1940. Il ne fut pas plus chanceux avec les inscriptions de Délos, dont le recueil, élaboré par le soin des épigraphistes français qui avaient fouillé le site de Délos, ne commença à paraître qu'à la veille de la Grande Guerre, dans le cadre du corpus de Berlin, les inscriptions inscriptiones graecae, et qui ne fut repris qu'après la guerre, après une longue interruption et sous une toute autre forme. La situation n'était pas meilleure pour Delphes, où le butin épigraphique restait encore passablement dispersé, car quand Ferguson écrivait en 1910, même la série célèbre des fouilles de Delphes, avec beaucoup d'inscriptions, avait à peine commencé. En Attique même, il fallait toute la science du prince des épigraphistes, comme on appelait volontiers alors l'Autrichien Adolf Wilhelm, pour se débrouiller dans le maquis des anciens recueils de publications très dispersées. Pour employer une formule de notre Louis Robert, 1952, le corpus attique était alors une ruine sur laquelle flottait une poussière de rectification. Enfin, surtout, un pan entier de la documentation épigraphique restait notoirement englouti, car si les fouilles de l'Acropole, dès les années 1880, avaient mis au jour une foule de documents publics, dont Ferguson, bien entendu, avait tiré parti, on ne savait pratiquement rien alors de tout ce qui se cachait dans le sous-sol du centre-ville sur l'agora d'Athènes, dans ce centre politique de la cité, toujours recouvert alors par les pittoresques maisons de l'Athènes byzantine et ottomane. Il fallut attendre le début des années 1930 pour voir les Américains entamer avec l'appui décisif de la fondation Rockefeller l'exploration archéologique de ce vaste ensemble. Opération dont Ferguson put non seulement voir toute la phase initiale, mais exploiter encore certains résultats en divers articles parus dans les années 1940. Peu après que, en pleine Seconde Guerre mondiale, la communauté scientifique internationale lui eut rendu un hommage mérité dans un volume paru en 1940, publié par l'Université de Harvard, ouvrage qui est connu, cité sous le titre de « Athenian Studies Ferguson ». Nul ne saurait donc contester la place éminente occupée dans l'historiographie moderne de notre sujet par l'auteur de Hellenistic Athens, ouvrage resté longtemps sans rival, sans concurrent dans aucune langue. Pour la première fois, un historien avait eu le courage d'affronter un sujet hérissé de difficultés en osant embrasser toute l'histoire d'Athènes entre ces deux capitulations retentissante que furent la défaite face aux Macédoniens en 322 et la défaite face aux Romains en 86 avant Jésus-Christ, l'une et l'autre consécutives à une révolte contre la puissance alors dominante. De prime abord, un tel sujet n'était guère séduisant, peu fait en tout cas pour attirer les auteurs enclins à brosser le tableau des gloires athéniennes, avec le Parthénon en point d'orgue. Ferguson ne voulut pas se borner. Il le dit dans son introduction, à étudier le sort misérable, ou prétendu tel, d'Athènes après Alexandre, comme s'il fallait s'acquitter des derniers devoirs à rendre à la plus fameuse des cités grecques. Ainsi que l'écrivait d'ailleurs, en 1860, l'historien britannique Edward Freeman, spécialiste du fédéralisme grec que nous avons beaucoup utilisé l'an dernier. Ferguson lui considérait tout jugement de cette sorte comme un a priori mal justifié aux yeux de quiconque se donne la peine d'examiner les choses sans parti pris. L'histoire d'Athènes à l'époque hellénistique était déjà à ses yeux digne en elle-même du plus grand intérêt et pas seulement à titre de prolongation ou en guise de funérailles. Car elle offrait en réalité, cette histoire, une impressionnante série de faits et même de hauts faits. Des figures et même de grandes figures, des événements d'une importance singulière qui, par leur complexité, leur caractère souvent dramatique, l'ampleur de leurs conséquences surtout, supportent parfaitement la comparaison avec les grands moments de l'Athènes de Pisistrate, de Thémistocle, de Périclès, de Socrate et de Démosthène, sans parler d'une activité culturelle très intense, quoique, malheureusement, moins connue que la précédente. Et aspect auquel Ferguson a essayé de donner toute la place qu'il pouvait. Aussi, cet ouvrage a-t-il fait date, comme le feront date également, très peu après, l'étude de W.W. Tarn sur Antigonos Gonatas, 1913, dans lequel l'histoire athénienne est très souvent examinée à travers le prisme macédonien, puisqu'il s'agit d'un roi de Macédoine, et bientôt, en 1923, avec la thèse magistrale de Maurice Hollot sur Rome et les monarchies hellénistiques, riche, elle aussi, d'aperçus originaux sur le destin d'Athènes, pris dans l'étau, on peut dire, des grandes puissances au tournant du 3e et du 2e siècle avant Jésus-Christ. On comprend donc mieux que le manuel de Ferguson soit demeuré très longtemps, sinon irremplaçable. Du moins difficile à remplacer. Il semble bien que personne n'ait songé sérieusement à réécrire une histoire d'Athènes hellénistique tant que l'auteur fut vivant, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 50, après qu'eurent disparu, tour à tour, plusieurs figures tutélaires de l'épigraphie attique. D'abord, dès 1940, l'Allemand Johannes Kirchner, l'homme du corpus, vous avez vu, de la prosopographia attica, puis le Français Pierre Roussel, auteur d'un livre important pour l'histoire d'Athènes, malgré son titre, c'est Delos, colonie athénienne, pour toute l'histoire du 2e et du 1er siècle, qui était d'ailleurs aussi auteur d'un une synthèse parue dans un manuel avant le manuel qui aujourd'hui fait autorité pour l'ensemble de l'histoire hellénistique, celui d'Edouard Ville dans les années 70. Enfin, en 1954, date qui marque à bien des égards un tournant, disparaissait le vieux maître autrichien Adolf Wilhelm, ce prince de l'épigraphiste, qui eut de l'ensemble de l'épigraphie attique, mais de l'ensemble de l'épigraphie générale, une connaissance sans doute insurpassable à jamais. Pourtant, en ce milieu du XXe siècle, l'activité scientifique ne faiblissait pas, bien au contraire. À Athènes, les fouilles américaines, quelque temps interrompues par la guerre, avaient repris de plus belle. Chaque année apportait son lot d'inscriptions que publiait très régulièrement dans Hesperia, qui était un périodique de l'école américaine spécialement dévolu à ces fouilles, divers épigraphistes qui s'acharnaient dans le sillage de Ferguson et aussi de Dinsmore à établir une chronologie plus sûre et plus précise du trou noir du IIIe siècle, en quelque sorte. Ainsi, en particulier, Benjamin Dean Merritt, professeur à l'Institute for Advanced Study de Princeton, Princeton devenu en quelque sorte le centre stratégique et éditorial des Agora Excavations. C'est lui qui fit connaître bien des documents hellénistiques, décrets, listes de membres du conseil, Pritane, Bouleute, dont il assura ensuite la publication systématique avec John Trails, justement dans cette série The Athenian Agoran, là un volume de 1974. Mais ce savant, sans doute très compétent, n'avait pas tout à fait, il faut le dire, l'étoffe d'un véritable historien. Il était par trop enfermé dans sa spécialité technique, avant tout les problèmes de calendrier, par trop axé sur le seul pays d'Athènes, Attikotatos, a-t-on dit de lui. Comme on l'a dit aussi de Kirchner d'ailleurs, pour faire véritablement une histoire d'Athènes hellénistique, laquelle requiert un esprit ouvert au vaste monde issu des conquêtes d'Alexandre. C'est un reproche qu'on lui a fait souvent, et notamment Louis Robert dans le bulletin épigraphique. Certes, il y avait également alors parmi les Américains d'autres excellents connaisseurs du passé athénien, mais c'était plutôt des archéologues au sens le plus large. On pense en particulier à Homer Thompson, longtemps directeur des fouilles de l'Agora, que j'ai encore l'honneur de rencontrer en Grèce et en Amérique, qui parvint à produire une remarquable synthèse, très recommandable, sur l'Agora d'Athènes à travers les siècles, qui est cette place publique, l'une des plus célèbres du monde avec le Forum romain. The Agora of Athens, 1972, en collaboration avec un philologue, Whit Shorley, qui avait précédemment réuni tous les témoignages écrits, littéraires et épigraphiques sur ce lieu central de la vie politique athénienne. Sur le plan de la recherche topographique, il y avait aussi l'infatigable arpenteur de l'Attique à la recherche des anciens dèmes, des anciennes communautés, dans leurs paysages encore souvent intacts, Eugene Van Der Poel, devenu par osmose plus athénien qu'un paysan de l'Attique. On songera également à la numismate américaine, Margaret Thompson, directrice de l'American Numismatic Society, avec un ouvrage, The New Style Silver Coinage of Athens, un ouvrage de numismatique, classement de toutes les émissions monétaires d'Athènes au IIe et au Ier siècle. Travail fondamental, même si la chronologie absolue proposée par elle a depuis été contestée et finalement abandonnée. Par ailleurs, on pouvait voir quelques chercheurs américains ou grecs, principalement, se risquer à reprendre ou à compléter tel chapitre de l'histoire hellénistique. Mitchell, par exemple, 1970, essaye de faire une synthèse sur l'époque dite de Lycurgue, entre 338 et 323, laquelle avait été laissée de côté par Ferguson ou d'autres. Du côté grec, Vassilis Petrakos, formé en France chez Jean Pouilloux à Lyon à la fin des années 50, se faisait bientôt connaître par son activité aux frontières de l'Attique, à Oropense et à Ramnonte, deux sites très importants dont il devait procurer, au terme d'un très long travail, le corpus épigraphique en grec moderne. Car dès 1967, cet archéologue, doublé d'un épigraphiste, publiait en grec moderne un décret des gens de Ramnonte, indemne, qui renouvelait de fond en comble les maigres connaissances que l'on pouvait avoir du déroulement de ce conflit pourtant décisif que fut au beau milieu du IIIe siècle, la guerre dite de Crémonides, on y reviendra. Toujours très actif aujourd'hui encore, en tant que secrétaire général de la Société archéologique d'Athènes, doué par ailleurs d'un rare esprit de synthèse, Petrakos allait-il être l'auteur de ce nouveau Fergusson dont le besoin se faisait sentir chaque année un peu davantage? Il ne me semble pas que notre très vénéré ami ait jamais eu cette ambition, en dépit de ses multiples contributions à l'histoire d'Athènes à l'époque hellénistique, dont certaines, fondées sur des documents inédits, sont du reste encore attendues avec la plus vive curiosité. Le tournant, ou même pourrait-on dire le déclic, a été provoqué au début des années 70 par la trouvaille dans les fouilles de l'Agora d'un document véritablement exceptionnel, le long décret pour l'Athénien Callias de Sphétos, qui apportait une lumière absolument neuve sur un événement majeur de l'histoire d'Athènes, le rejet de la pesante domination sous laquelle le roi de Macédoine, Démétrios Poliorcète, tenait alors la cité depuis plusieurs années. La publication de cette très belle inscription, que l'on sera amené à voir, fut assurée en 1978 par l'archéologue américain T. Leslie Shear, fils homonyme du premier directeur des fouilles, et d'ailleurs directeur lui-même, paru, vous le voyez, comme supplément du périodique Hesperia, Callias of Sphetos and the Revolt of Athens. J'ai un très clair souvenir de la lecture passionnée que j'ai pu faire de ce livre, crayon en main, durant l'été 1979, dans un chalet familial des Alpes vaudoises, car les péripéties athéniennes avaient un impact direct sur la reconstitution que j'essayais alors d'élaborer des vicissitudes eubéennes et béotiennes dans la même conjoncture politique. Mais je savais aussi, dès alors, pour l'avoir entendu dire à Christian Habicht à Princeton, dans l'hiver 1975-76, que la chronologie des événements proposée par l'éditeur du décret de Callias ne pouvait pas être acceptée telle quelle. La date même de 286, quoique traditionnelle et proclamée dans le titre même du mémoire, était sujette à caution. Ce ne fut donc pour moi et d'autres que moi, bien sûr, qu'une demi-surprise de voir Habicht, dès cette même année 1979, reprendre toute la question dans un livre intitulé « Untersuchungen zur politischen Geschichte Athens im dritten Jahrhundert vor Christus », étude où il montrait de façon décisive que ce soulèvement d'Athènes ne datait pas de 286, mais déjà de l'année précédente, 287, ce qui entraînait toute une série de conséquences pour l'histoire de la cité après sa libération. Très riche en résultats d'une singulière importance sur toute la période, ce livre donnait donc un terrible coup de vieux, si l'on peut dire, au vénérable manuel de Fergusson. C'est donc très certainement dans ce contexte, vers 1975, que le professeur Christian Habicht dut concevoir l'idée d'une refonte de l'histoire hellénistique d'Athènes. Ce projet d'une nouvelle présentation générale, Allgemeine Darstellung, dit-il, était en tout cas affiché pour la première fois dans l'avant-propos du livre de 1979, et il le fut de rechef dans un nouveau petit livre de Studien zur Geschichte Athens, paru en 1982 et qui portait cette fois plutôt sur la fin du IIIe siècle. Ce savant se trouvait, de fait, dans les meilleures conditions possibles pour mener à bien une telle entreprise. Âgé alors d'une cinquantaine d'années, il occupait depuis 1973 un poste de membre permanent au sein du prestigieux Institute for Advanced Study, poste où il avait précisément remplacé l'épigraphiste Benjamin Dean Merritt, qui avait constitué à Princeton une très importante collection d'estampages, donc d'empreintes sur papier, des inscriptions trouvées dans les fouilles de l'Agora et d'une foule d'autres également. D'une certaine façon, Habicht se sentait tenu de mettre en valeur ce fonds d'archives dont il héritait en quelque sorte. Et surtout, sans être lui-même un épigraphiste de terrain, par une sorte de coquetterie, il a toujours préféré être qualifié d'historien. Il était donc déjà parfaitement à l'aise dans le champ de l'épigraphie attique et de l'épigraphie tout court. Fort récemment, à l'occasion d'un colloque que j'ai déjà mentionné, qui a été tenu en son honneur à Athènes et dont les actes viennent d'être publiés, 2009, Habicht a raconté avec simplicité et humour ses premiers contacts avec cette discipline. How I came to Greek epigraphy. Avant d'atteindre l'âge de 30 ans, dit-il, il n'avait pratiquement pas eu l'occasion de voir, ou disons mieux, de toucher une inscription grecque. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il n'en avait étudié aucune jusque-là, tant s'en faut. Bien des épigraphistes d'autrefois, et parmi les plus grands, pouvaient faire toute leur carrière sans se déplacer jamais en pays grec. Habicht, lui, avait étudié beaucoup de documents pour faire sa thèse sur le culte des souverains hellénistiques dans les cités, thèse soutenue devant l'université de Hambourg en 1951 et qui, une fois imprimée en 1957, sous le titre de Gottmenschentum, donc divinisation, Ungriechische Städte, avec une réédition en 1970, est rapidement devenue un classique de nos études. Il avait lu à fond pour cette recherche les travaux des épigraphistes, les plus éminents dans sa langue, comme Dittenberger et Wilhelm, bien entendu, mais aussi ces deux Français, ceux des Français Hollo et Robert. Il dit de Robert, « Those of the incomparable Louis Robert », écrit-il justement en hommage à ce savant. Or, c'est justement dans ces années-là, en 1954, année cruciale, décidément, celle du passage définitif d'une génération d'épigraphistes, de savants à l'autre, qu'il put faire un grand tour de la Méditerranée en tant que boursier de l'Institut archéologique allemand avec un séjour de plusieurs mois en Grèce. Et par une extraordinaire suite de circonstances où la chance le disputa au mérite, il fut en mesure de publier dès 1957 la première inscription qui lui avait été donnée d'examiner de façon un peu attentive dans les réserves du musée d'Olympie. Or, c'était un document d'un exceptionnel intérêt qui tout de suite devint comme une pièce d'anthologie traduite dès 1960 à l'usage des étudiants français dans le choix d'inscription grecque de Jean Pouilloux, à savoir le décret par lequel la Confédération acarnanienne réglementait vers 210 avant Jésus-Christ les relations entre l'État fédéral et la cité d'Anactorion, jusque-là seul propriétaire du sanctuaire de l'Apollon d'Axium, aux abords duquel, on le sait, allait se jouer deux siècles plus tard le sort du monde antique en 31 avant Jésus-Christ. Comment entrer en matière dans la discipline ? On pouvait difficilement faire mieux. Et le succès, appelant le succès, Habicht se vit aussitôt confier en 1955 la publication des décrets trouvés dans les fouilles allemandes de l'île de Samos, document fort intéressant, eux aussi, dont il fit d'ailleurs sa thèse d'habilitation publiée en 1957, elle aussi. Ainsi, en réalisant un étonnant triplé au cours d'une seule et même année, deux thèses, un article fondamental sur cette inscription d'Olympie, il se trouvait propulsé d'un coup au nombre des historiens épigraphistes, je dis épigraphistes, ne lui en déplaise, parce qu'il l'est aussi, les plus prometteurs de sa génération. Les premiers contacts avec l'épigraphie attique n'allaient pas tarder à avoir lieu, et là aussi de brillantes façons. En 1960, en effet, il eut l'opportunité de passer une année à Athènes avant d'entamer sa carrière professorale à Marbourg d'abord, puis à Heidelberg. Ses compatriotes d'Athènes, qui fouillaient et fouillent toujours le site du céramique, lui confièrent alors la publication de trois inscriptions publiques remployées sur le site du grand cimetière antique. Deux documents éphébiques, concernant les effets, on y reviendra, des années 330, surtout un beau décret honorant en l'an 188-7 avant Jésus-Christ, l'hipparque, un des deux commandants de la cavalerie athénienne, qui se trouvait être cette année-là un personnage ayant joué un rôle historique considérable. C'était donc pour Abiche une première plongée dans Athènes hellénistique. Simultanément, il s'intéressait à une inscription peu banale qui venait d'être apportée au musée épigraphique d'Athènes, 1960, depuis son lieu de trouvaille, la ville de Trézène en Argolide. Inscription qui aurait donc pu dire tel l'Hippolyte au début de la Phèdre de Racine, « Je quitte le séjour de l'aimable Trézène ». C'était un décret attique datant prétendument de l'année 480 avant Jésus-Christ, chose inouïe, se présentant comme une proposition du grand Thémistocle à la veille de la bataille de Salamine. Alors que l'éditeur, l'Américain Michael Jameson, approuvé par son compatriote Merritt, ce qui laisse un peu songeur, soutenait l'authenticité fondamentale de ce décret, sa valeur documentaire donc, Habicht, avec d'autres, mais de façon plus complète et décisive que tous les autres, montra qu'il s'agissait en réalité d'un faux antique, ressortissant à une catégorie dont il y avait déjà plusieurs indices ou spécimens littéraires au milieu du IVe siècle. On reviendra tout à l'heure dans la séance de séminaire sur la date, les principales caractéristiques et surtout sur le texte, une partie du texte de ce document bien extraordinaire publié il y a très exactement 50 ans, en 1960. Depuis cette époque, Habicht n'a plus cessé de s'intéresser à l'histoire d'Athènes. Mais on l'a dit, c'est seulement à partir de son installation en Amérique, 1973, qu'il en a fait son cheval de bataille. Dans l'intervalle, il travailla beaucoup en Asie mineure, publié en 1969 le beau et même monumental recueil des inscriptions de l'Asclépion de Pergame. 3 ans auparavant, en 1966, il avait commencé à s'intéresser à l'épigraphie de la Thessalie, dans le cadre des investigations que menait dans cette région, donc du nord de la Grèce, son collègue de Heidelberg, le préhistorien Vladimir Milotic. C'est ainsi une vingtaine de mémoires qu'il a consacrées jusqu'ici à l'histoire thessalienne. Comme cela fut rappelé d'ailleurs dans un autre colloque en son honneur, Habicht a été beaucoup honoré ces dernières années et à juste titre, colloque qui lui fut tenu à Volo. Et cela n'est pas indifférent pour notre propos, car la Thessalie eut des relations constantes avec Athènes, et à l'époque hellénistique encore, soit pendant la période de domination des rois de Macédoine sur ce pays, jusqu'en 197, soit après la victoire romaine, quand le koinon thessalien fut reconstitué par Rome. De fait, dès 1976, sous le titre « Ehrung eines thessalischen Politikers in Athènes », des honneurs donc conférés à un homme politique thessalien à Athènes, Habicht avait attiré l'attention sur un tout petit fragment qui ne donnait que un nom, qui était connu depuis fort longtemps, inscription IG de deuxième édition 933, et montrant qu'il fallait le joindre à un morceau beaucoup plus important découvert par les Américains sur l'Agora et publié par Merritt en 1960. Voilà le texte donc, de l'édition de 1960 dans la revue américaine Hesperia. Cela permettait à l'historien allemand de comprendre qu'à la ligne 8 du nouveau morceau, il ne fallait pas restituer le démotique, comme on dit, l'amtrea, pour le personnage ici, comme si on avait affaire à un citoyen athénien du dème de Lamptreus, mais que l'on devait reconnaître en ce fils de Kratinos, dont le nom était donné par le petit fragment méconnu, on devait reconnaître en réalité un homme de Larissa, pas Lamptreus, Larissa. Petite chose, mais me semble-t-il très révélative. Parce que c'est la preuve que l'histoire d'Athènes ne peut pas s'écrire en vase clos. Il faut regarder au-delà de cette cité, en l'occurrence vers la Thessalie. C'est pourquoi aussi les articles de Habicht relatifs à Athènes, qui ont été recueillis, réunis dans un ouvrage de 1984 sous le titre Athènes in Hellenistischer Zeit, ça n'est pas sa synthèse, ça, c'est un recueil d'articles qui est important à la fois pour Athènes, mais aussi pour le reste du monde grec. Relevons une chose dans ce recueil, celui que vous avez sous les yeux, c'est que si la presque totalité des articles sont l'œuvre du seul Christian Habicht, l'un, publié d'abord en 1991, a été rédigé en collaboration avec Stephen Tracy. Le fait n'est pas anodin, car cet épigraphiste américain, venu à Princeton une première fois en 1987 pour travailler sur la collection des estampages de l'Institute, s'est signalé depuis 20 ans par une méthode novatrice en matière de paléographie, l'identification, dans la mesure du possible, des mains de graveurs, du moins des ateliers, ce qui permet de faire des rapprochements inattendus, d'une portée chronologique et historique, parfois considérable. Tracy est l'auteur de plusieurs ouvrages, d'une assez grande technicité, il faut le dire, que masquent un peu, inutilement à mon gré, des titres de portée plus générale, comme ici, vous le voyez, « Athenian Democracy in Transition », pour une étude sur les lapicides de la période 340-290. Cela fait du reste une transition passablement brutale, puisque en 290, précisément, le régime démocratique avait été provisoirement rangé au placard. Il n'empêche qu'il y a là une source de renouvellement dont l'intérêt a été d'emblée proclamé par Habicht et au besoin défendu contre certaines attaques. De même, ont été le plus souvent prises en compte sur les questions de calendrier, les résultats encore largement inédits de l'astronome John D. Morgan de l'Université de Delaware, contraignant parfois les historiens à des révisions déchirantes de leur fragile certitude. Mais cela concerne essentiellement, encore une fois, le trou noir des années 240-220, qui ne sera examiné qu'au début de l'année prochaine, sur la base, j'espère, de nouveaux documents, toujours en attente de voir enfin l'éclatante lumière du soleil. Qu'il me soit permis, pour conclure cette leçon d'introduction, de dire quelques mots encore de la traduction, ou plutôt des traductions, du livre de Christian Habicht. En 1997, deux ans après sa publication aux éditions Carl Beck à Munich, vous avez vu la page de titre tout à l'heure, sous le titre de Athènes, Geschichte, ça n'est pas celui-là, non, Athènes, Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit, était parue une traduction, donc 97, anglaise, ou plutôt américaine, publiée à Harvard, University Press, sous le titre « Athens from Alexander to Antony ». Œuvre de Madame Deborah Lucas Schneider, qui ne paraît pas être une historienne connue par d'autres travaux, donc plutôt une traductrice professionnelle. Il s'agit là, en tout cas, d'une simple traduction qui se borne à enregistrer quelques rectifications mineures suggérées par l'auteur ou par la traductrice, sans complément d'aucune sorte. Il en va de même de la traduction donnée en grec moderne, à peu près la même année, 1998, sauf erreur, par Yanis Kilis. Un savant autorisé, aussi autorisé que Vassilis Petrakos, que j'ai cité tout à l'heure, nous confiait qu'elle lui paraissait bonne à jeter. Ya petama. L'expression est forte. Jugement sévère, où il entre peut-être un peu d'irritation face au modernisme du style et aux innovations de l'orthographe et de l'accentuation. Je n'ai pas vu la traduction russe, parue la même année à Saint-Pétersbourg, donc un siècle exactement après le livre de Djebelev, ce qui d'ailleurs n'a pas été remarqué ou souligné. Je ne serai de toute façon guère en mesure de juger de sa valeur. Pour de toute autre raison, je n'ai pas à prononcer de jugement non plus sur la traduction française. Mais je tiens à préciser certaines choses tout de même à son sujet. Il est apparemment de bon ton chez certains, pas tous, loin de là, jeunes historiens, de considérer que la traduction d'une synthèse historique telle que celle-ci est chose la plus naturelle du monde, produite par génération spontanée, en quelque sorte, sinon par machine à traduire, de sorte qu'à leurs yeux, les traducteurs, qui ne seraient que d'obscurs tâcherons, doivent demeurer dans l'anonymat pour ne faire aucune ombre, pense-t-il, au mérite exclusif de l'auteur. Mais ce n'est pas ainsi, je crois devoir le préciser, que les choses se passent le plus souvent. Pour nous en tenir à l'œuvre de Christian Habicht, il eût été très souhaitable, par exemple, que son admirable livre, sa synthèse sur Pausanias, publié en allemand et en anglais en 1985, réédité dans cette langue en 1998, fut traduite rapidement en français. Or, jusqu'à ce jour, il ne s'est trouvé personne, que je sache, pour tenter ou pour suggérer l'entreprise. Dans le cas qui nous intéresse ici, pour Athènes hellénistiques, il a fallu que quelqu'un, très tôt, dès l'hiver 95-96, après la parution de l'édition allemande, en prenne l'initiative, fasse les démarches qui ont été laborieuses pour convaincre un éditeur parisien de produire un livre qui possédait une infinité d'atouts, sans doute, sauf celui de devenir un best-seller. Et puis, il a fallu surtout réaliser un travail long et ardu pour rendre accessible, en un français fluide, si possible un peu élégant, un texte qui était le fruit de 20 ans de labeur, avec les retouches, les cicatrices que cela implique. Cette traduction, plusieurs d'entre vous le savent, a été fondamentalement l'œuvre de Martin Knöffler-Puchet, avec qui j'ai discuté de chaque page, de chaque phrase, toutes les notes, et nous avons fait cela en collaboration très étroite avec l'auteur lui-même, qui peut ainsi, de 1996 à 99, nous suggérer beaucoup de corrections, de formes et de fonds, tandis que, de notre côté, il nous arrivait de lui indiquer des difficultés, un problème à résoudre, un changement à faire. Ce qui est certain, c'est que Christian Habicht fut et reste très heureux, on peut le dire, du résultat, comme il le marqua d'emblée et encore dans l'avant-propos du livre. D'autre part, si la première édition française d'Athènes hellénistiques ne se fit pas sans peine, sans joie non plus, ni sans enthousiasme, je m'empresse de l'ajouter, il fallut redoubler d'efforts après qu'au printemps 2002, un incendie eut ravagé le stock des éditions Les Belles Lettres, anéantissant tous les exemplaires restants de ce livre en même temps que, par exemple, toute la série des Budées grecs et latins. Que faire ? Espérer une réédition pure et simple de toute la collection bleue, l'histoire que dirigeait alors encore le regretté Pierre Vidal-Naquet ? Ce n'était pas à l'ordre du jour, la maison ayant d'autres priorités. Il m'a semblé, et ici je crois devoir m'exprimer à la première personne, du singulier, que l'on se donnerait peut-être les moyens, en attendant quelque temps, de produire une édition corrigée, surtout augmentée. Mais l'auteur lui-même hésita à se lancer dans une telle révision, accaparé qu'il était par d'autres travaux, notamment en rapport avec la riche épigraphie de l'île de Kos. Finalement, en 2004, année où il fit un passage à Paris, mais sans y donner de conférence, je parvins à le convaincre de me fournir des éléments nouveaux pour une mise à jour des notes et de la bibliographie. Je fis le reste, tant bien que mal, tandis que ma femme faisait une relecture attentive du texte lui-même. C'est ainsi que put paraître, donc début 2006, l'édition revue et augmentée qui essayait de tenir compte, ne fût-ce que succinctement, des apports de la recherche depuis la fin du siècle précédent. Cette édition française, revue et augmentée, n'a pas son équivalent dans les autres langues, pas même en allemand. Christian Habicht a tenu à signaler la chose dans l'évocation toute récente, j'ai fait allusion, de sa carrière d'épigraphiste, pardon, il le dit, c'est peut-être un peu difficile à lire, en mentionnant le travail fait sur l'édition française. Aussi suis-je bien certain qu'on rendra à ce grand savant un hommage tout à fait conforme à son attente et à ses sentiments en mentionnant discrètement le nom de la défunte traductrice, laquelle mérite pleinement d'être associée à l'aventure intellectuelle qu'a été la production d'Athènes hellénistique. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.